France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne passent la semaine en Aveyron et mon invité du jour est un personnage haut en couleur que nous avons repéré grâce à Finta. Finta, c'est un podcast dont je vous ai déjà parlé dans cette émission. Un podcast indépendant qui donne la parole à ceux et celles qui s'engagent, qui sèment des graines et défrichent des chemins de l'Aubrac au Larzac, selon les mots de Lola Cross, la créatrice de Finta. Elle donne la parole à ceux et celles donc qui incarnent l'envie d'agir à l'échelle locale. Finta est l'outil idéal pour explorer l'Aveyron avec les oreilles. Et c'est donc en l'écoutant que nous avons eu envie de donner la parole à Solveig Le Thor. Avec elle, nous allons parler des richesses naturelles et historiques du Larzac, car elle le connaît sur le bout des doigts. Elle vous offre le Larzac sur un plateau. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Solveig Le Thor.
Bonjour Dorothée.
Vous habitez à la Couvertoirade, superbe village fortifié sur le haut plateau des Causses du Larzac, dans le sud de l'Aveyron donc. Et vous êtes guide, grande spécialiste du Larzac. Vous travaillez plus précisément comme guide de randonnée d'une part, et guide conférencière dans un village vacances à Nantes d'Aveyron. Comment est-ce que vous pourriez définir ce métier, Solveig ? De quoi sont faites vos journées de travail ?
Alors, ce sont des journées de bonheur parce que c'est un métier passion. C'est un métier que moi je qualifierais comme un métier de transmission. En fait, c'est d'expliquer aux gens que là où ils arrivent dans ce pays du Larzac, qui parfois peut paraître un petit peu désert, c'est vrai, aride, eh bien, il s'y est passé énormément de choses depuis 80, 2000, 25 ans. Il y a une histoire. C'est un paysage qui est façonné par la main des hommes, mais dans lequel vivent également énormément d'autres vivants qu'on ne voit pas toujours parce qu'ils ont l'habitude de se rendre un peu invisible. Et donc, mon métier à moi, c'est de rendre visible ceux qui essayent de se cacher, comme tous ces animaux, car on a la chance d'avoir énormément d'animaux vivants, des sangliers, des chevreuils. Là, il y a un petit merle qui est en train de sautiller devant moi, sur la pelouse. Eh bien, tous ces animaux, ils nous laissent des traces. Et mon métier, c'est d'essayer de faire en sorte que, quand on se promène, on oublie un peu ses soucis, on oublie un peu son quotidien et on essaye d'ouvrir les yeux sur ce merveilleux vivant qui nous entoure et qu'on ne sait plus toujours voir, forcément.
Vous apprenez aux gens à marcher intelligent, c'est ce que vous dites souvent.
C'est ce que j'essaye de faire, voilà, marcher intelligent, essayer d'ouvrir les yeux qu'on n'a pas toujours ouverts quand on marche, et ben on regarde devant soi le ciel, etc. Mais parfois, et ben parfois ça peut être intéressant de regarder ses pieds, de regarder par terre, d'oser s'arrêter. On n'ose plus s'arrêter maintenant, juste poser un genou à terre et de regarder l'infiniment petit qui grouille sous nos pas et qui ont plein de choses à nous dire, que ce soit les fourmis, que ce soit les végétaux. Donc ce que j'aime dire, c'est que parfois c'est bien de rester à l'affût. Et pour rester à l'affût, ben faut savoir s'arrêter.
Vous connaissez sur le bout des doigts les paysages du Larzac, en effet, mais aussi l'histoire de cette terre, et notamment la fameuse lutte contre l'extension d'un camp militaire dans les années 70. C'est une lutte qui a duré 10 ans et qui a obtenu gain de cause en 1981. Vous étiez là à l'époque, Solveig, vous étiez enfant. Est-ce que vous compreniez ce qui se jouait ?
Alors, pas forcément. Je comprenais avec mes yeux d'enfant, avec mes oreilles d'enfant, avec mon émotion d'enfant. Et c'est ce qui est intéressant. C'est vrai que d'avoir un guide qui a grandi là où il vous promène, ça permet d'avoir des expériences personnelles. Donc, une autre expérience que celle que l'on lit dans les livres d'histoire, parce que la lutte du Larzac, aujourd'hui, c'est rentré dans l'histoire. C'est l'histoire contemporaine. Donc, vous le savez, l'histoire est toujours écrite par ceux qui ont gagné, par les vainqueurs. Mais c'est bien aussi, ce que j'aime, moi, c'est la grande histoire et la petite histoire, les coulisses. Comment tout ça s'est mis en place. Alors aujourd'hui, il y a la mythologie, bien sûr, la mythe de la lutte du Larzac, lutte non violente qui a réussi à obtenir gain de cause, mais c'est bien aussi de savoir que ce n'était pas si facile que ça, qu'il y a eu des complexités, que pour un enfant, ce n'était pas toujours facile de voir des adultes se faire secouer un peu par des gendarmes, parce qu'il y a eu quand même un peu de violence de l'autre côté. Donc il y a toute cette mémoire enfantine qui est peut-être intéressante parfois à explorer et à expliquer. Tant qu'il y a des gens qui ont vécu la lutte, c'est bien de pouvoir en parler aujourd'hui. Comme ça, ça reste encore vivant.
Vous avez d'ailleurs consacré un livre aux affiches créées pendant cette lutte. Le Larzac s'affiche, c'est le titre de l'ouvrage, préfacé par Stéphane Hessel. Il y a pas mal d'humour dans ces affiches, Solveig, et dans les slogans aussi. L'humour était au cœur de la lutte.
Oui, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont gagné. C'est qu'ils ont su, grâce à l'humour, essayer d'emmener avec eux plein de gens. Et c'est vrai que la solidarité arrive beaucoup plus facilement quand on a fait un éclat de rire ensemble. Ben voilà, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est tous les mêmes.
Quel est votre slogan préféré de la lutte du Larzac ?
Peut-être moi, c'est « Faites la bourre, pas la guerre ». Parce que, à la fois travailler la terre, donc s'enraciner, mais bien sûr que derrière le labour, il y avait aussi l'amour.
Votre métier de guide, en effet, c'est aussi de faire découvrir la biodiversité du Larzac. Est-ce qu'il y a une espèce en particulier dont vous avez envie de nous parler, Solveig ?
Oh, alors il y a celle qui nous survole et pour laquelle j'ai une véritable passion, ces fameux vautours fauves qui font peur justement parce qu'ils sont inconnus ou peu connus. Ces grands rapaces-là qui nous survolent, qui sont des charognards, donc ça c'est pas très positif, mais en fait ce sont des éboueurs naturels, des écarisseurs, donc c'est grâce à eux que la nature est nettoyée. Et ils ont un vol tellement magnifique quand ils s'envolent là au-dessus de nous. Alors le bonheur, vous savez c'est quoi le bonheur, Dorothée ? Le bonheur, c'est de pouvoir poser ses petites fesses sur un bout de caillou, dominant ainsi la vallée et de brusquement s'apercevoir que vient vous caresser de ses grandes ailes ces rapaces extraordinaires qui, sans battre des ailes, parce qu'ils sont un peu comme nous, c'est un peu feignants, s'ils peuvent éviter de dépenser l'énergie, ben ils vont le faire. Donc ils vont prendre les courants ascendants juste sous vos pieds et puis ils vont s'élever. Et là, le vol d'un vautour fauve, je vous promets, le dessus d'une vallée, c'est quelque chose qui vous apaise et qui vous rend tellement petit face à ce monde immense qu'on revient à sa vraie place, au cœur du vivant. Pas au-dessus, pas en dessous, mais dedans. Et franchement, prendre le temps d'observer les vols de vautours fauves, ça, c'est magnifique. Mais j'ai aussi une petite passion pour les fourmis, parce que le grand, immense là-haut dans le ciel, et le tout petit sous nos pieds, ça aussi, c'est passionnant de regarder. On y passerait une vie, le nez dans l'herbe, à regarder passer les fourmis. Pourquoi elles savent exactement où elles doivent aller ? Comment elles savent, elles ? Ça doit être immense pour elles, le territoire, mais à chaque fois, elles retrouvent leur termitière. Donc, comprendre comment, avec leurs fesses, parce que je suis désolée, c'est aussi avec leur derrière qu'elles font ça. Elles déposent des petits sons, tout simplement de la chimie, qui leur permet ainsi de retrouver à chaque fois leur fermilière. Donc tout ça, c'est passionnant, du plus petit au plus grand.
Mais dites-moi, on les regarde de loin quand même, les rapaces ?
Oh, pas quand vous êtes sur le Larzac, parce que quand on connaît, ah ben voilà, si vous êtes un touriste sans guide et vous vous promenez, vous allez râler en disant « Oh, il n'y en a pas, oh, ils sont loin. »
Il faut des jumelles, voilà.
Il faut des jumelles, ou alors on ne les a pas vues. Et par contre, si vous prenez un guide, lui, il saura vous dire, ben si, venez avec moi. Et c'est plutôt en ce moment, vers 10h30, qu'ils vont décoller, parce qu'ils sont plutôt là-haut, sur ce rocher. Vous allez voir qu'à 11h45 exactement, on va voir le vol qui va... Parce qu'on connaît, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir des gens qui vivent là, à l'année, et qui savent exactement si le soleil est ici, si la chaleur est là, si l'orage arrive. Donc quand on sait, quand on connaît une vie passée sur le Larzac, ça vous permet d'avoir quelques repères comme ça. Et ben moi, je vous mets au défi. Je peux vous montrer à tout moment un vol de vautours fauves, une quinzaine, vingtaine, parce que je sais à quel moment ils vont décoller, de quel endroit, et où est-ce qu'ils vont aller ou à peu près.
J'ose à peine vous poser la question, mais je me lance. Est-ce que vous avez parfois des envies d'ailleurs, Solveig ?
Alors, mon ailleurs est ici. En fait, j'ai beaucoup voyagé enfant. Jeune adulte, j'ai été un peu partout. Et je me suis aperçue qu'un peu partout, c'était très beau, mais je ne pouvais pas y rester. Et que donc, je ne connaîtrais jamais à fond un territoire un peu partout. Donc, ça fait une dizaine d'années que je me suis donné comme ambition de connaître mon territoire, mais au millimètre carré. Et c'est un bonheur de savoir exactement, parce que c'est changeant, et on ne connaît jamais de toute façon un territoire en entier. Donc, pour peu qu'on s'intéresse un peu à tout ce qui bouge et qui vit, eh ben, moi, ma petite vie, un peu comme Sylvain Tesson, vous savez, au 25e millimètre, ma carte IGN, et ben je me promène là. Et ben j'ai jamais fait le tour. Ça va faire 10 ans que je traîne partout. Et à chaque fois, je peux découvrir une petite cabane de berger, un muret, une termitière que j'ai pas vue, une fourmilière. Je trace des liens aussi avec les animaux qui vivent. J'essaye de vivre, comme nous disait Baptiste Morisot, avec cette cosmopolitesse qu'il avait mis en place, Baptiste Morisot. C'est-à-dire savoir qu'il y a des gens différents qui vivent autour de nous, du vivant différent, mais qu'il faut respecter. Donc, en y allant doucement autour de mon territoire, je peux développer cette fabuleuse cosmopolitesse qui est un vrai bonheur. On peut être heureux en ayant choisi de vivre sur son sol et sans bouger, sans arrêt. En fait, je pense qu'on est beaucoup plus heureux quand on ne bouge plus.
Baptiste Morisot, je le précise, c'est un philosophe. La cosmopolitesse, voilà votre ambition de vie, donc Solveig, connaître par cœur, les 5 kilomètres autour de chez vous ?
Voilà, ça me suffit. C'est suffisant. Il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi passer une vie, même plusieurs vies. C'est dommage qu'on n'en ait qu'une, d'ailleurs. J'aimerais bien en avoir d'autres. Et puis, alors, ce qui est bien dans ce choix de vie, c'est que je n'abîme rien. Et je ne suis pas dans la prédation. Et tous les jours, c'est le bonheur parce que tous les jours, je reviens sur quelque chose que je n'ai pas abîmé. Et puis, en plus, pardon, mais ça me coûte rien. Voilà, c'est gratuit, c'est offert. C'est la nature qui me fait ce cadeau magnifique. Et tous les matins, je peux, comme ça, développer mon cadeau. Et il est chaque fois différent. Donc, il y a eu de la pluie, ou il y a eu des nuages, ou du soleil. Donc, c'est un bonheur gratuit, offert, cadeau. C'est quand même pas rien, ça.
Et votre village, Solveig, combien d'habitants ?
Alors, à l'année, à l'intérieur des remparts, parce que c'est une petite Carcassonne, hein, faut imaginer un petit village perdu entouré de ses remparts, nous sommes une vingtaine d'habitants. Mais comme c'est une petite merveille, eh bien, nous avons 200 000 visiteurs qui viennent nous rendre visite. Donc, vous imaginez le rapport de force hein, entre les 20 habitants et les 200 000 personnes. Quand on a un trésor, il faut le partager. Donc, on accepte de le partager. Mais justement, le métier de guide, c'est aussi d'expliquer qu'il y a des gens qui vivent là et que ce n'est pas un musée et que le tourisme, parfois, quand il est un peu trop important, il peut faire un peu de mal. Donc, c'est ce qu'on essaie de développer, ce qu'on appelle l'écotourisme maintenant. Hein, d'expliquer que c'est bien de rester dans les chemins pour pas abîmer autour et de respecter les habitants qui ont la chance de vivre dans ce petit morceau de paradis.
Et d'ailleurs, comment ils s'appellent les habitants de la Couvertoirade ?
Alors, on les appelle pas parce que quand on les appelle, ils viennent pas. Voilà. Donc, ils sont un peu rebelles.
Ça, c'est le Larzac.
Et comme ils sont assez uniques, on a décidé qu'on nous appelait pas. Voilà.
Bon, écoutez, voilà, comme ça, c'est bien. Merci mille fois, Solveig Le Thor, guide conférencière sur le Larzac. Bonne journée à vous.
Bonne journée, Dorothée, et peut-être à une prochaine fois.
Et puis, j'ai un message d'auditrice à vous lire. Il m'a tapé dans l'œil. Voici ce que nous écrit Daniel. Bonjour, l'équipe des carnets de campagne. Dommage que vous n'ayez pas l'accent de nos phrases à l'écrit. Vous entendriez que je suis du sud de la France, précisément de Carcassonne. Cependant, je suis nomade et je voyage beaucoup, poursuit cette auditrice. Vous cherchez des gens géniaux, Dorothée ? J'en connais plein. Dans l'Aveyron, à Rodez, en voici quelques-uns. La patronne du café Le Dolcé. Vraiment, elle mérite qu'on parle d'elle à la radio. Toujours la banane, un petit mot gentil à chacun. Avec énergie et douceur, elle va et vient entre les tables, elle sourit, blague et rigole avec tout le monde. À notre dernière rencontre, on s'est dit mutuellement « Tu es mon rayon de soleil de la journée » et il faisait un temps pourri dehors. Sinon, poursuit Daniel, j'ai aussi en réserve le serveur du centre culturel La Baleine, toujours à Rodez, dans le même genre d'humain, sympa et cool. Les deux garçons de la MJC qui gèrent l'atelier informatique et qui aident, sans sourciller, les nuls comme moi en informatique. Ils devraient être décorés pour leur patience. La guichetière de la poste du centre-ville de Rodez. Quand je pense qu'elle sera un jour remplacée par une machine, ça me glace le sang. C'est à peine si elle m'a pas collé le timbre sur l'enveloppe tellement elle était disponible, écrit Daniel. À la dame de la gare routière, qu'est-ce qu'elle est pas chou elle aussi. Avec patience et sourire, elle t'explique comment emprunter toutes les routes entre les villes d'Occitanie en bus, les horaires, les prix. Elle est super efficace. Leur temps est précieux à eux aussi, tous ces gens géniaux. Et cela ne les freine pas dans leur générosité, leur donne envie de donner des sourires et de la gaieté. Et Daniel de conclure, merci à vous, ne changez rien. Et moi je vous dis merci à vous Daniel, chère auditrice, pour cette liste des gratitudes, pour ce délicieux inventaire de gens géniaux à Rodez, dans l'Aveyron.